Nous continuerons la lecture du chapitre 19 à partir du deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 4. Et Josaphat habita à Jérusalem. Et de nouveau, il sortit parmi le peuple depuis Beer-Sheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et il établit des juges dans le pays, dans toutes les villes fortes de Juda, de ville en ville. Et il dit aux juges, « Voyez ce que vous ferez, car ce n'est pas pour l'homme que vous jugerez, mais pour l'Éternel, et il sera avec vous dans ce qui concerne le jugement. Et maintenant, que la frayeur de l'Éternel soit sur vous, prenez garde en agissant, car auprès de l'Éternel notre Dieu, il n'y a point d'iniquité, ni acception de personne, ni acceptation de présent. » Et à Jérusalem aussi, Josaphat établit des Lévites et des sacrificateurs et des chefs des pères d'Israël pour le jugement de l'Éternel et pour les procès. Et ils étaient revenus à Jérusalem. Et il leur commanda, disant, « Vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et d'un cœur parfait. Et quelque procès qui vienne devant vous de la part de vos frères qui habitent dans leur ville, entre sang et sang, entre lois et commandements, statuts et ordonnances, vous les avertirez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et qu'il n'y ait pas de colère contre vous et contre vos frères. Vous agirez ainsi, et vous ne vous rendrez pas coupables. Et voici, Amaria, le principal sacrificateur est préposé sur vous dans toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, prince de la maison de Juda, dans toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous pour officiers les Lévites. Fortifiez-vous et agissez, et l'Éternel sera avec l'homme de bien. » Chapitre 20. Et il arriva après ces choses que les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux une partie des Maonites, vinrent contre Josaphat pour faire la guerre. Et on vint et on rapporta à Josaphat en disant, « Il est venu contre toi une grande multitude de l'autre côté de la mer, de la Syrie. Et voici, ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Et Josaphat craignit, et tourna sa face pour rechercher l'Éternel, et proclama un jeûne par tout Juda. Et Juda s'assembla pour chercher secours de la part de l'Éternel. Et on vint aussi de toutes les villes de Juda pour rechercher l'Éternel. Et Josaphat se tint debout dans la congrégation de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qu'il a donné à toujours à la semence d'Abraham, ton ami. Et ils y ont habité, et y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, s'il nous arrive du mal, épée, jugement, ou peste, ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Et maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer lorsqu'ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux et ne les détruisirent pas. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et l'Esprit de l'Éternel vint au milieu de la congrégation sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jeiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et il dit, « Soyez attentifs, vous tout Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux, et voici, ils vont monter par la montée de Tzitz, et vous les trouverez au bout de la vallée, devant le désert de Jéruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Judas et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Et Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Et ils se levèrent de bonne heure le matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Écoutez-moi, Judas, et vous, habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. » Et il tint conseil avec le peuple, et il établit des chantres pour l'Éternel, et ceux qui louaient dans la sainte magnificence et disaient en sortant devant les troupes équipées, « Célébrez l'Éternel, car sa bonté demeure à toujours. » Et au moment où ils commençaient le chant de triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui venaient contre Juda, et ils furent battus. Ensuite, la victoire de l'Éternel sur les ennemis. Verset 27. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem et Josaphat à leur tête s'en retournèrent, revenant à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait réjouis au sujet de leurs ennemis. Et ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays, quand ils entendirent que l'Éternel combattait contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos tout alentour. Et Josaphat régna sur Juda. Il était âgé de 35 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 25 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Azuba, fille de Chilki, et il marcha dans la voie d'Asa son père et ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés, et le peuple n'avait pas encore disposé son cœur à rechercher le Dieu de ses pères. Et le reste des actes de Josaphat, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans les paroles de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Et après cela, Josaphat, roi de Juda, se lia avec Akazia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Et il s'associa avec lui pour construire des navires pour aller à Tarsis. Et ils construisirent les navires à Etion-Guéber. Et Eliezer, fils de Dodava, de Maréchat, prophétisa contre Josaphat, disant, « Parce que tu t'es lié avec Akazia, l'Éternel a détruit tes œuvres, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. » Je lirai le premier verset du chapitre suivant. « Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. » Nous avons vu ce matin le début du règne de Josaphat. On l'a souligné, ce fut un début de règne heureux. Josaphat était un homme pieux, un roi pieux. Il a marché dans les voies d'Asa son père. Et dès le début de son règne, il a su résister à tout ce qui pouvait l'attirer pour rester fidèle, l'attirer en dehors de la voie de Dieu, pour rester fidèle à Dieu et au commandement de l'Éternel. Nous avons vu qu'il s'est fortifié contre Israël, nous avons vu qu'il a marché dans les premières voies de David son père, nous avons vu qu'il avait construit des villes fortes et des forteresses, nous avons vu qu'il avait aussi, en plus de cela, ramener le peuple à la loi et au commandement de l'Éternel. Il avait envoyé des hommes qui étaient habilités pour cela, pour enseigner la loi de l'Éternel et les commandements de l'Éternel au peuple pour les ramener dans le droit chemin. Hélas, nous avons vu que si au début de son règne, il a su résister à diverses tentations, il a su être victorieux dans certains combats et dans certaines luttes qui lui ont amené de la gloire et de la prospérité, en particulier de la prospérité matérielle, une certaine considération de la part d'Akab, en particulier le roi d'Israël et des rois voisins. Il n'a pas su ensuite s'en tenir là. Et l'orgueil, l'ambition, l'ont amené à faire alliance avec le roi Achab. Et cela en raison de considérations politiques, sociales ou économiques. Et on peut penser que les deux rois ont eu à peu près les mêmes idées. Cela était peut-être très bon pour des hommes, selon des raisonnements d'hommes, mais ce n'était pas selon la pensée de l'Éternel. Les rois d'Israël, en effet, on l'a rappelé, étaient des rois iniques qui marchaient dans leur propre voie, selon leur propre volonté, dans le mal et dans l'idolâtrie. Nous avons vu alors que Josaphat avait été entraîné beaucoup plus loin, certainement, qu'il ne l'avait pensé au départ. Et il s'est identifié d'une telle sorte avec le roi Achab, lorsque, au verset 3, il dit « Moi, je suis comme toi et mon peuple comme ton peuple, et je serai avec toi dans la guerre. » Il est entraîné. Bien sûr, il a un sursaut, et il demande à Achab d'interroger un prophète de l'Éternel. Michée est alors appelé. Michée prononce les paroles de l'Éternel et annonce la déroute devant le combat qui était placé devant eux, que Achab lui-même désirait pour reprendre Ramoth de Galaad. Le prophète Michée annonce en particulier la mort d'Achab. Nous avons vu ce qu'il en a été, Michée, un homme de foi, un homme de Dieu, un homme qui apportait la parole de l'Éternel. Mais, en quelque sorte, les décisions des deux rois étaient déjà prises, ils n'ont tenu aucun compte des avertissements de l'Éternel. Et ils sont partis à la guerre pour reprendre Ramoth de Galaad, qui avait été pris par les Syriens. À ce moment-là, Achab propose un stratagème à Josaphat. Et il s'identifie tellement avec le roi Achab, Josaphat s'identifie tellement avec le roi Achab, qu'il accepte de porter sa robe royale dans la bataille, de façon à être vu par tous les adversaires, par tous les ennemis, alors que Achab, lui, s'était déguisé et s'était tenu dans une position humble, dans une position effacée, cachée. Nous voyons ce qu'il en est advenu. Josaphat a failli, s'étant tellement identifié avec Achab, a failli connaître la fin qui avait été prédite à Achab. Les ennemis se sont renforcés contre lui et ont cherché à l'atteindre. Il a fallu que dans sa grâce, l'Éternel intervienne et arrête les ennemis, les détourne du roi Josaphat pour que Josaphat soit délivré. Il est fréquent que dans la vie d'un croyant, lorsqu'il a des liens trop étroits avec le monde politique, le monde religieux ou avec tout ce qui concerne la terre, il arrive que le chrétien soit entraîné sous le même jugement et dans la même condamnation que le monde. Cela s'est déjà produit, hélas. Et nous voyons qu'il a fallu toute la grâce de Dieu pour délivrer Josaphat de ce mauvais pas. Nous avons vu au chapitre 19, alors, la guerre est terminée, la bataille est terminée, Achab effectivement meurt selon la parole de Michée, alors qu'une flèche est tirée à l'aventure, l'Éternel n'a que faire des stratagèmes des hommes, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Achab meurt. Josaphat s'en retourne dans sa maison en paix, mais il a de nouveau un avertissement de la part de Jéhu, fils de Hanani. Hanani étant le prophète qui avait déjà averti son père Asa lors d'un faux pas de ce dernier. Alors nous en arrivons donc au verset 4 où nous voyons Josaphat qui habite à Jérusalem. Jérusalem, c'était la ville de l'Éternel. Eh bien, Josaphat rentre et habite à Jérusalem. Nous pouvons considérer qu'il se trouve là sur un terrain beaucoup plus favorable et beaucoup plus conforme à la pensée de l'Éternel. Il habite à Jérusalem. Le jugement que Jéhu a prononcé contre lui, il l'accepte sans protestation. Il s'y soumet. Et nous voyons qu'il recommence à faire passer des hommes. Et on peut même dire qu'il y va lui-même dans le pays de Juda. Il y va lui-même pour ramener le peuple à la loi de l'Éternel. Cette leçon, cette épreuve, cet épisode ainsi avait porté du fruit dans son cœur. Et il revient à l'Éternel, et il est restauré, et il sent sa responsabilité de ramener le peuple et de leur parler. Et nous voyons qu'il établit des juges, différents juges, et il établit une administration selon la pensée de Dieu. Ensuite, dans ce chapitre 20 que nous avons lu, nous voyons alors un des plus beaux épisodes, sinon le plus beau, du règne de Josaphat. Les ennemis montent, Moab, Ammon, les Maonites montent en grand nombre contre Josaphat. Que fait Josaphat? La leçon précédente a été comprise et il se tourne vers l'Éternel et il implore l'Éternel pour avoir du secours. Le résultat ne se fait pas attendre. Ayant conscience de sa faiblesse, il peut dire qu'ils sont sans force devant ses ennemis innombrables, alors qu'à la fin du chapitre précédent, il avait pu dire « Fortifiez-vous et agissez ». Ici, il se rend compte qu'il est sans force devant les ennemis et il remet tout entre les mains de l'Éternel. La réponse ne se fait pas attendre, l'ennemi est détruit. Nous voyons ensuite la fin du règne de Josaphat et nous arrivons, encore une fois, Josaphat, Acab étant mort, s'associera avec son fils Akazia pour quelque chose de... pour une circonstance, non plus une circonstance de lutte ou de combat, mais pour amener de l'or dans les caisses de son royaume. L'ambition territoriale, en quelque sorte, est effacée ici, mais c'était une ambition sur le plan matériel. Il recherchait des richesses, et cela encore sans demander l'avis de l'Éternel. Et ensuite, nous voyons que Josaphat s'endormit avec ses pères. Ce sont des leçons que nous pourrons tirer, et nous allons en étudier les détails maintenant.
Nous avons vu ce matin dans le premier chapitre les bonnes choses qui sont dites à l'égard de ce roi pieux, du roi Josaphat, et nous avons ici le parallèle dans le chapitre qui nous a été lu, où Josaphat ira encore plus loin faisant ce qui est bon, vrai, aux yeux de l'Éternel. Lui-même enverra ses émissaires et lui-même va enseigner le peuple. Il a tiré les leçons de la bataille de Ramoth de Galaad, bataille désastreuse, mais où nous voyons le méchant frappé et le juste délivré, comme Dieu le fait toujours et encore aujourd'hui. Nous avons vu Josaphat comme enfermé dans un piège, et seule la grâce de Dieu va le délivrer de ce piège dans lequel il s'est mis. Ah, le juste peut se trouver dans des situations sans issue, mais il peut toujours crier à son Dieu. Il porte les conséquences de ses inconséquences ici, mais Dieu agit en grâce, en délivrance, comme il le fait encore aujourd'hui à l'égard du juste. Et nous ne sommes pas surpris, ce sont des remarques préliminaires, nous ne sommes pas surpris, après avoir lu le chapitre 19 de ce sommet de l'Écriture que nous avons, magnifique chapitre que nous avons, chapitre 20, avant là, Josaphat ne se trompe pas, s'était trompé. Il ne savait pas où était l'ennemi dans le chapitre à Ramoth de Galaad, mais ici, il y a cette confiance qui honore l'Éternel. Son armée nombreuse de ce roi puissant ne paraît pas ici. Simplement une prière, il se tient dans la maison de l'Éternel. Il se réfère à la prière de Salomon. Et tout Juda vient pour chercher le secours de la part de l'Éternel. Dans un moment d'exercice, de détresse, tout Juda se tient là devant l'Éternel. Et quand il en est ainsi, nous ne pouvons pas être surpris du résultat. Dieu intervient et nous le voyons ici agir d'une manière merveilleuse envers Juda, envers ce roi pieux. En quelque sorte, la victoire, c'est la victoire de l'Éternel, remportée à la mer Rouge aux paroles de Moïse, encourageant ce peuple, leur disant, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Nous avons à peu près ici les mêmes paroles et la délivrance de Dieu intervient. Que de leçons nous avons ici, mes amis, la fidélité, l'attachement à l'Éternel, le cœur parfait, les commandements donnés par ce roi, tout Juda, et nous avons les réponses divines dans le chapitre 20. Eh bien, mes amis, que nous puissions tirer les leçons qui nous sont données ici. Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Puissions-nous retenir cette parole valable pour toutes les générations. Recherchez. C'est la vie, c'est la paix. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Nous assistons en effet au chapitre 19e à une merveilleuse restauration de ce roi Josaphat. Il revient de loin. Au verset 1er, il peut être dit qu'il s'en retourna dans sa maison en paix. Effectivement, Dieu l'avait délivré d'une situation absolument critique. Pauvre roi, il s'était assis là au siège des moqueurs, à côté d'Akab. Il n'avait même pas pu défendre la cause de ce fidèle Miché, ni de délivrer des mains d'Akab qui le fait emprisonner. Il a la bouche fermée. Situation véritablement désastreuse pour un roi pieux. Il s'est allié aux méchants, il l'a aidé, verset 2. Il a aimé ceux qui haïssent l'Éternel, son cœur lui-même est allé là. Il ne s'est pas simplement laissé entraîner par une perspective de bonheur, délivré Ramoth de Galaad. Il y avait un cœur qui est allé après le conseil d'Akab. Et qui l'a suivi? Il a la bouche fermée. Et puis, nous savons ce qui est arrivé au fort de la bataille. Le voilà qui est menacé de mort. Mais Dieu le délivre. Dieu entend son cri. Il n'est même pas dit qu'il cria à l'Éternel. Et Josaphat cria. Un point, c'est tout. Et Josaphat cria. Et l'Éternel le secourut. Quel a été son cri? Quel a été sa brève prière peut-être au moment où véritablement la mort est devant lui? Dieu le sait, et Dieu l'écoute, et Dieu le secourt. J'ai entendu son cri, dira l'Éternel à Moïse, le cri du peuple sous l'esclavage. Eh bien, là le cri d'angoisse de Josaphat, Dieu l'a entendu, et Dieu est descendu pour le délivrer. Il retourne en paix à sa maison, mais s'il est l'objet d'une grâce merveilleuse, il n'en reste pas moins qu'il est allé très loin. Et que le gouvernement de Dieu doit s'appliquer à sa conduite inexorablement. On ne peut pas autrement faire que moissonner ce qu'on a semé. Et puisqu'il s'est allié aux méchants, il doit en subir les conséquences. Et il y aura la discipline. Il y aura la discipline qui lui est annoncée. À cause de cela, il y a colère sur toi de la part de l'Éternel. Dieu va le faire passer par une discipline très particulière, d'autant plus nécessaire que Ces paroles sont prononcées probablement après ce qui s'est passé en 2 Rois 3, où, avec le roi Joram, fils d'Akab, il est allé à la guerre contre Moab, aussi sur l'insistance de Joram, parce que les Moabites, précisément, s'étaient rebellés contre le roi Joram d'Israël. Alors, nous savons ce qui est arrivé. Josaphat est allé avec Joram, et il est allé aussi même avec le roi d'Édom. Et tous ensemble, ils ont été aussi remarquablement délivrés par la confiance que Josaphat, ce jour-là, a encore mis dans la délivrance qui vient de la main de l'Éternel. Et Élisée, le prophète, a pu prophétiser qu'ils seraient délivrés leurs armées seraient délivrées de la soif. Nous connaissons les épisodes et nous savons que Moab aussi a été vaincu. Mais une victoire qui n'en était pas une et qui était certainement un échec de toute façon, puisque voilà Moab qui revient au chapitre 20e, ce même Moab qu'on avait cru vaincre ce jour-là en 2 Rois 3, le voilà qui réapparaît. Et qui ne réapparaît pas tout seul, qui réapparaît avec des forces, nous pouvons dire, multipliées. Une multitude, dit Josaphat, une multitude. Il vient avec les fils d'Ammon, il vient avec les Maonites, c'est-à-dire une partie des fils d'Édom. Les voilà tous liés pour aller et pour lutter contre Josaphat. C'est la discipline, non pas seulement à cause de ce qui s'est passé au chapitre 18e, encore une fois, mais aussi à cause de ce qui s'est passé en 2 Rois 3 à l'égard des fils de Moab. Une guerre à laquelle Josaphat s'était joint, où il avait dit les mêmes paroles, « Moi, je suis comme toi », etc., bien sûr. Et il doit en tirer les conséquences. Là, et nous verrons comment il a pu, dans cette discipline, se soumettre à cette épreuve et en sortir triomphant. Et il a pu le faire parce qu'il a été préalablement restauré. C'est cela qui permet de supporter le gouvernement de Dieu dans les circonstances que nous avons méritées. Et lorsque sa main s'applique durement sur nous, en discipline, lorsque nous avons à courber la tête, comme Josaphat le fera, nous ne pouvons véritablement avoir la pleine confiance en Dieu que si nous sommes sur un terrain de restauration. Ces choses, apparemment, sont jugées. La manière dont Josaphat se conduit dans le chapitre 19e montre que toute sa conduite désormais est dictée par la crainte de l'Éternel, par le désir de le rechercher, de rechercher sa pensée, d'établir l'ordre dans son pays. Et nous le voyons qui ramène à l'Éternel, le Dieu de leur père, ces enfants d'Israël, ces deux tribus, qui n'avaient pas encore disposé leur cœur à rechercher l'Éternel. Voilà que ce roi se transforme en berger, en pasteur, un véritable pasteur du troupeau d'Israël, tel que sera dans un temps futur le vrai pasteur, le vrai David, celui qui viendra. Et donc, Ézéchiel peut dire, « Je susciterai sur eux un pasteur qui les pètera, mon serviteur David, lui les pètera, et lui sera leur pasteur. » Voilà Josaphat qui anticipe ce moment où le Seigneur reviendra pour s'établir sur les siens comme un véritable berger. Nous avons vu dans la prophétie de Michée au verset 16 du chapitre 18, Michée dit, « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau qui n'a pas de berger. » Et l'Éternel a dit, « Ceux-ci n'ont pas de Seigneur. » Eh bien maintenant, il y a un berger, il y a un seigneur, non pas en Israël, mais en Juda. Il y a là quelqu'un qui non seulement envoie ses émissaires, comme au chapitre 17e, mais qui se déplace lui-même, mais qui visite son peuple, mais qui va prendre soin de son peuple, qui va prendre conscience des besoins de son peuple. Voilà ce dont a besoin encore aujourd'hui le peuple de Dieu. Il faut des pasteurs, il faut de ceux qui, envoyés par Dieu, puissent véritablement paître le troupeau, comme le dit l'apôtre Pierre. Eh bien, c'est ce que Josaphat a fait en ce jour-là. Il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et dans tout le royaume, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, on peut bien penser qu'il n'a oublié personne, qu'il a visité son peuple, qu'il les a encouragés, qu'il les a aussi, qu'il a établi l'ordre dans la maison, dans le peuple de Dieu, comme aujourd'hui l'ordre aussi doit être établi dans la maison de Dieu. Il y a les juges qui sont établis pour juger justement et pour agir, remarquons-le bien, avec un cœur parfait, dit le roi Josaphat, avec un cœur parfait. C'est dire, au verset 9e, vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et d'un cœur parfait. C'est dire si ce roi était restauré pour parler ainsi à son peuple et aux représentants de son peuple et à ceux qui sont établis sur ce peuple. Parce qu'au verset 8e, il établit des Lévites et des sacrificateurs et des chefs de père d'Israël. Assurément, une maison de Dieu en ordre, il y a ce qui est ordonné par Dieu, les surveillants, les anciens sont à leur place, comme à ce moment-là les chefs des pères, il y a les lévites qui accomplissent chacun leur service, chacun à leur place, comme il les a établis ici. Il y a les sacrificateurs qui rendent culte selon l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, selon tout ce que Dieu attend des siens actuellement. Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qu'a fait Josaphat. Voilà la manière dont il a montré qu'il était parfaitement restauré. Non seulement un homme qui retrouve sa communion avec l'Éternel et une véritable vie personnelle de piété, mais au milieu de son peuple, un pasteur est celui qui, en tant que roi, établit sur son peuple tout ce qui est nécessaire pour que tout soit bien ordonné selon la pensée de Dieu. Alors nous comprenons que dans cet esprit-là, l'ennemi peut venir. Josaphat peut attendre cet ennemi de pied ferme, parce qu'il ne se confie plus ni dans l'armée du roi d'Israël, ni dans ses propres forces. Il a pourtant une armée nombreuse, mais il se confie en son Dieu. Il n'y a pas de force en nous, mais il y a la force là où il la demande et il l'obtiendra.
Faire un court parallèle entre ces rois Akab et Josaphat, bien que, comme on l'a fait remarquer, Akab ne soit pas le sujet de nos entretiens aujourd'hui. Par deux fois, nous venons de voir, Josaphat dit, « Moi, je suis comme toi. » À Akab et au roi Joram, sauf erreur, n'est-ce pas, dans le livre des rois. Ce n'est pas ainsi, pourtant, que l'Éternel voyait les choses. Il est décevant, certes, de trouver ces paroles dans la bouche de Josaphat. Mais l'Éternel faisait une différence fondamentale entre un Akab et un Josaphat. C'est la différence que le Seigneur fait entre les bâtards et envers les fils. Dans le livre des Proverbes, nous lisons le méchant, chapitre 5 du livre des Proverbes, à la fin. Le méchant, ses iniquités le saisiront, il sera tenu par les cordes de son péché, il mourra, faute de discipline, il s'égarera dans la grandeur de sa folie. Tel fut Akab. Tenu par les cordes de son péché, et il meurt dans la grandeur de sa folie. Josaphat aussi aurait, à un instant, été tenu par les cordes de son péché, cette association avec ces rois d'Israël. Mais Josaphat était un fils. Et on vient de le souligner, n'est-ce pas, il est l'objet de la discipline de l'Éternel. Car l'Éternel ne peut absolument pas abandonner ceux qui lui appartiennent. Son honneur, l'honneur de l'Éternel lui-même est engagé à ce que ses serviteurs soient gardés et ne s'égarent pas dans la grandeur de leur folie et ne meurent pas faute de discipline. Et alors nous en arrivons à ces enseignements de Hébreux 12 qui nous sont adressés directement. Hébreux 12, verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage car tu es repris par lui. Car celui que l'Éternel aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Et alors l'apôtre, l'écrivain de cet épître aux Hébreux, donne cette exhortation, n'est-ce pas ? Ne serons-nous pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits et nous vivrons ? Et alors s'il y a cette soumission à la discipline, cette soumission au Père des esprits, alors la discipline produit ce fruit paisible à ceux qui sont exercés par elle. Akab, un bâtard. Il est mort dans la grandeur de sa folie. Josaphat, un fils, qui certes, on l'a vu, doit connaître dans le gouvernement de Dieu les conséquences de ses égarements. Mais c'est un fils. La discipline s'exerce envers lui. Et puis, alors, on le voit s'endormir avec ses pères. et être enterré dans la ville de David. Ne méprise pas la discipline du Seigneur, ne sois pas découragé par elle, mais soyons exercés par cette discipline, et alors elle produira le fruit paisible de la justice.
On nous a fait remarquer que Josaphat, une fois restauré, tout en ayant encore à connaître la discipline, est devenu un pasteur, ce qui nous fait penser à Pierre aussi, lorsque le Seigneur, dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, Pierre est pleinement restauré, et cela devant ses frères. Alors le Seigneur lui dit, « M'aimes-tu, Pierre ? Eh bien, paie mes brebis, paie mes agneaux. » Voilà un pasteur qualifié maintenant. Nous aurions dit, il s'est au contraire complètement disqualifié pour tout service pour le Seigneur. Non, il a appris à se connaître, et par conséquent, le Seigneur va lui confier ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire ses brebis et ses agneaux. Eh bien, ici, on a ce service vraiment pastoral de Josaphat. Il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Et il ne ménage pas sa peine, pour ainsi dire, à la recherche de toutes ces brebis égarées, pour rétablir, restaurer le troupeau du Seigneur, pour agir envers ces brebis d'Israël comme le Seigneur a agi vis-à-vis de lui. Et c'est beau de voir, à la fin du verset 7, il nous est dit, Josaphat sait très bien dire, « Il n'y a pas d'acception de personne auprès de lui. Tout roi qu'il était, Dieu a agi envers lui, comme envers toute brebis, comme envers tout croyant, la discipline s'exerce. Il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Et malgré sa fidélité passée, Dieu a dû lui faire peser les conséquences de sa faute. Quelles vont être ses conséquences ? Au début du chapitre 19, Josaphat s'était engagé dans une guerre de son propre chef, une guerre qui n'était pas la sienne. Eh bien, il va avoir à subir maintenant une guerre qu'il n'avait pas souhaitée. Il va être l'objet de cette attaque, cette conjuration de ses ennemis traditionnels du peuple de Dieu, ses plus proches voisins, ses ennemis qui de tout temps l'ont été une épine à son côté, et qui, à un moment que Josaphat a cru pouvoir ménager, s'allier avec eux, comme nous l'avons au chapitre 3 du deuxième livre des rois. Eh bien ici, ce sont Moab, les fils d'Ammon, et puis une partie des Maonites. On nous dit que ce sont des descendants d'Ésaü, des Édomites, et les voilà qui s'amassent, qui constituent là une immense multitude, une grande multitude, conjuration. Et Josaphat, au lieu de mobiliser ses troupes-là, de prendre des dispositions militaires, il recherche l'Éternel, proclame un jeûne. Il sait que le secours ne peut venir que d'en haut, que ce ne sont pas les forces humaines, si nombreuses qu'elles soient. Si nous comptons bien, dans le chapitre 17, nous avons 1 360 000 hommes dans cette armée, ce qui est énorme, n'est-ce pas, pour ce petit État. Eh bien, il ne fait aucun appel à ses troupes. Mais voilà, c'est du côté de l'Éternel, verset 4, Judas s'assembla, pourquoi ? Pas pour s'armer, encore une fois, mais pour chercher secours de la part de l'Éternel. Et on vint de toutes les villes. Pourquoi ? Pour rechercher l'Éternel. Alors voilà, le secours va venir aussi de la maison de l'Éternel que fréquente Josaphat. Il y entre, un peu comme Ézéchias le fera avec sa lettre qu'il va déployer au jour de l'attaque de Sanchérib devant l'Éternel pour dire, tu vois, voilà, cette affaire te concerne. C'est ton peuple. Tu t'en occuperas, tu prendras sa défense. On pense au psaume 84, au verset 5. Bienheureux l'homme dont la force est en toi.
Cette guerre dont il est question dans le chapitre 20 est en quelque sorte la conséquence directe du chapitre 19. Josaphat a été restauré. Il est revenu à l'Éternel. Il a ramené le peuple. C'est quelque chose que l'adversaire, Satan, ne peut supporter. Et tout aussitôt, il rassemble ses forces pour monter contre Juda. C'est aussi une épreuve de la part de l'Éternel, car Satan ne peut rien faire si l'Éternel ne le permet. Et c'est une épreuve que Dieu permet vis-à-vis de son peuple Juda pour voir s'il y a de la réalité dans son cœur. Nous voyons qu'il en a été ainsi, puisque Josaphat ne s'est pas appuyé sur son armée, mais il s'est tout de suite tourné vers l'Éternel, le Dieu de ses pères, en qui il a trouvé les forces, le secours dont il avait besoin. C'est ce que nous avons à faire. Et lorsque quelqu'un remporte une victoire, et dans le chapitre 19, c'est encore en quelque sorte une victoire morale et spirituelle que Josaphat a remportée. Lorsque quelqu'un remporte une victoire, et le Seigneur permet souvent que cette victoire soit mise à l'épreuve. Et nous avons ici une épreuve pour Josaphat et Juda, et cette épreuve a été positive. Josaphat a montré, et le peuple avec lui, qu'il y avait de la réalité dans ce retour, dans leur cœur, dans ce retour à l'Éternel.
Le roi restauré, recherchant l'Éternel, enseignant Juda et agissant dans la crainte de l'Éternel, tout cela apporte dans cette épreuve du chapitre 20 le discernement pour agir comme il convient. Nous voyons ce roi pieux qui entre dans la maison de l'Éternel, lui disant en quelque sorte c'est ton affaire. Nous ne pouvons rien contre cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. Voyons le jeûne proclamé, tout Juda qui se tient là pour rechercher l'Éternel, avec les petits-enfants, leurs femmes, leurs fils, c'est ce que nous lisons. Et il y a simplement le rappel de ce que l'Éternel avait fait pour Israël, leur ayant donné le pays. Ils viennent nous chasser, dit-il. Et les petits-enfants en Israël avaient une voix puissante devant Dieu. Les dépossédés de ce pays que l'Éternel leur avait fait posséder. Ah, tout Juda était groupé là, dans la conscience de leur complète insuffisance, de leur complète impuissance. Ah, combien c'est heureux lorsque ces extrémités de l'homme, si j'ose dire, font mouvoir le bras puissant de Dieu. Il est celui qui nous aime, et c'est l'extrémité de l'homme, a-t-on dit, et pour Dieu le moment favorable. Parole de Josaphat, ici sa prière. Les amis, quelle beauté, quelle élévation, quelle confiance transparaît dans cette prière. Et nous comprenons que, aussitôt, prophète de l'Éternel, dans la congrégation, est là pour encourager le roi Josaphat, le peuple de Juda. La réponse est donnée, la réponse est donnée. Éternel lui-même de dire, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous de combattre en cette affaire. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous.
C'était ce qui s'était passé à la mer Rouge. Notre Dieu est toujours le même. Puissions-nous, mes amis, retirer une leçon de cette confiance du roi, de cette confiance du peuple de Juda, roi restauré ici, et qui peut agir conformément à la pensée de Dieu. Discernement moral lui est donné. Quelle différence avec cette association malheureuse, cette bataille de Ramoth de Galaad qui s'était avérée désastreuse, où l'Éternel l'avait délivré. Eh bien, nous le répétons, puissions-nous tirer leçon morale des paroles, de l'attitude de ce roi pieux ici, pleinement restauré.
Le combat chrétien a toute son importance dans la vie de chacun de nous. Son vrai sens nous est donné dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Il a pour but de nous faire jouir de notre héritage. Dieu ne se contente pas de nous sauver, et tout heureux que soit la chose, quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que Jésus est son sauveur, c'est un témoignage à la puissance de Dieu qui le fait passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens heureux, des chrétiens affranchis, des chrétiens qui jouissent déjà du ciel, alors qu'ils sont encore sur la terre dans des corps d'infirmité. Et pour la prise de possession de notre héritage, des combats sont à livrer. Nous avons une armure complète de Dieu, fournie à chaque combattant. Et chacun a sa propre responsabilité dans ce combat. Et nous comprenons ici, dans ce passage, que le chapitre 19 est tout à fait important avant que le combat soit livré. Il faut se préparer. Ce n'est pas au moment où Satan nous attaque que nous devons nous préparer. Non. Il y a tout un temps qui doit être mis à profit, un temps où il y a une paix relative par la bonté de Dieu et où chacun doit être exercé, doit s'affermir dans la foi, dans la jouissance de tout ce qu'il possède en Christ. Et nous voyons que l'état pratique du croyant est très important. D'ailleurs, cette armure complète d'Éphésiens 6 correspond à notre état pratique. Les reins saints de la vérité, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi pour éteindre des dards enflammés du méchant, et les deux armes offensives que sont l'épée de l'esprit et la prière par l'esprit. Satan fait tout ce qu'il peut pour nous ramener au niveau de la terre, quand nous sommes des chrétiens authentiques, car il sait qu'un chrétien terrestre ne peut pas être un témoin. Et il ne peut pas avoir de vraie joie dans les biens de la terre, dans les possessions de la terre. La vraie joie du chrétien, c'est Christ. Christ dans le ciel, là où il est. Et Satan fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher de jouir présentement d'un Christ glorifié. Car il découle de cette contemplation de Jésus à la droite de Dieu un effet pratique merveilleux, c'est que nous sommes des chrétiens célestes. Nous apparaissons comme tels aux yeux de ceux qui nous voient vivre. Et c'est ainsi que nous pouvons leur faire envie. Un chrétien de la terre ne fait pas envie à d'autres chrétiens qui le jalousent plus ou moins, tandis qu'un chrétien qui possède le ciel, qui en jouit profondément, il a un rayonnement. Les rayons de la grâce de Christ sont réfléchis par lui, tel un Étienne, au moment où, sous les pierres de ses bourreaux, il donne sa vie pour son maître. Son visage est transformé. De même, un Moïse, quand il parlait avec l'Éternel au-dessus du propitiateur, purgatoire, eh bien son visage rayonnait. Voilà le vrai témoignage. Voilà ce à quoi Dieu veut nous préparer pour sa propre gloire encore dans ce monde. Nous pouvons être des chrétiens, des chrétiennes heureux, heureuses, aujourd'hui encore, dans la mesure où nous jouissons du ciel sur la terre. Et nous voyons bien que Josaphat est préparé. Spontanément, quand ses ennemis arrivent, il y a là quelque chose de tout à fait remarquable dans l'attitude de Josaphat, qui est le conducteur du peuple. Et il nous est dit, il craignit, il tourna sa face pour rechercher l'Éternel et proclama un jeûne. Voilà un trio invincible. Là, deux valent mieux qu'un et la corde triple ne se rompt pas vite, nous dit l'Ecclésiaste. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la connaissance et de la sagesse que nous communique Dieu par son esprit, c'est de haïr le mal, c'est d'aimer le bien. Toujours ce principe, cesser de mal faire, apprendre à bien faire, que nous retrouvons constamment dans l'Écriture, car nous sommes dans un monde qui est sous les conséquences du péché, de la désobéissance du premier homme et de toute sa descendance. Et au milieu d'une telle scène, eh bien, le racheté du Seigneur doit être préparé, doit être formé par cette crainte de Dieu qui nous oriente toujours du côté de Dieu. Nous avons affaire avec Dieu dès que nous cultivons la crainte de Dieu. Et un jeune homme qui connaît le Seigneur peut se faire reconnaître par cette crainte de Dieu qui lui fait haïr le mal. Il y a des noms, des refus que lorsque nous sommes à l'école du Seigneur, nous avons à opposer à ce monde et en même temps choisir Christ dans notre vie. Et puis, nous voyons qu'il tourne sa face pour rechercher l'Éternel. C'est cette merveilleuse prière, un modèle de prière qui nous est donné dans ce chapitre 20. La ressource, elle est là, la prière. La prière qui va toucher le cœur de Dieu et mouvoir son bras tout-puissant, sans que les armées déploient toutes leurs forces. Ce sera la bataille que Dieu va livrer. Car aujourd'hui encore, nous avons affaire à un ennemi vaincu. Mais quelqu'un disait, il est très solennel de dire que Satan a été vaincu quand il est en train de nous vaincre. C'est toujours vrai. Nous avons besoin constamment de nous réfugier dans la prière, de nous confier en Dieu pour mener à la victoire les vrais combats de la foi. Et combien l'apôtre a été constamment en veille pour livrer ses combats. J'ai combattu le bon combat, peut-il dire à la fin de sa course. Il en était conscient pour le bien de toutes les assemblées. Il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la sollicitude pour les assemblées. Quel beau service, quel beau travail, et d'autant plus précieux qu'il est caché, des cœurs qui portent une assemblée devant Dieu pour le bien, pour le salut du peuple de Dieu. Et le troisième point, c'est le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne aujourd'hui? Sans doute, il a toute sa valeur au sens physique du mot, mais encore plus le jeûne moral, ne donner aucun aliment à la chair. Et ainsi, le combattant peut être employé utilement pour le bien du peuple de Dieu. Et ce qui est très beau, c'est de voir cette unité de tout le peuple à la suite de Josaphat. Il a été préparé au chapitre 19, il est de cœur avec le roi pour affronter ses ennemis qui veulent les chasser de leur héritage. Cet héritage que Dieu avait promis à son ami Abraham. Quelle expression que celle-là. Un ami, c'est peut-être très rare, mais c'est quelqu'un à qui nous pouvons tout confier. Et nous savons que cela sera gardé avec soin et ne sera pas divulgué. Un ami, c'est quelqu'un qui partage les mêmes sentiments, les mêmes pensées, à qui on peut se confier. Eh bien, Dieu doit dire d'Abraham qu'il était son ami. Et c'est à cet ami, il avait réservé cette Canaan, pays ruisselant de lait et de miel. Pas moins de 19 fois, cette citation se trouve dans l'Écriture. Tant Dieu désire toujours nous donner de bonnes choses. Et si c'était vrai pour le peuple terrestre, combien plus pour le peuple céleste. Les bonnes choses que Dieu réserve à la foi aujourd'hui, c'est son ciel, c'est ce bon pays, cette Canaan d'en haut, dans laquelle nous sommes appelés, chacun, à nous promener en long et en large, comme le faisait Abraham dans la Canaan terrestre. Et Dieu veuille que nous aussi, nous soyons des combattants de la prière pour le bien de nos frères et de nos sœurs, pour le bien de nos familles, pour le bien des assemblées que nous devrions porter sur nos cœurs, dans nos intercessions, dans la séparation de tout ce qui nourrit la chair et en même temps en cultivant la crainte de Dieu chaque jour.
Au jardin d'Éden, l'homme a perdu Dieu. Depuis ce moment-là, il s'est égaré. C'est ce que nous avons pendant 4000 ans, jusqu'à la venue du Christ. La dernière épreuve de l'homme, c'est la venue en grâce de celui qui était le Fils de Dieu. Connaissons le résultat. Le plus grand péché de l'homme a été commis par la crucifixion du Fils de Dieu. Depuis, Dieu désire en grâce avoir des hommes, des enfants, des fils pour lui-même. Dieu désire entretenir des rapports d'intimité avec l'homme, avec ses fils, ses enfants. Quand on dit l'homme, c'est l'homme racheté. Bien sûr, tout ce qui nous est dit dans les Écritures de l'Ancien Testament, comme il est écrit, sont là pour nous instruire. Toute parole, toute écriture est inspirée de la part de Dieu et utile. Mais cette écriture nous conduit à Dieu lui-même. Il est de toute importance de réaliser que le but de Dieu pour chacun de nous, en nous parlant de toutes sortes de manières, aux jeunes, aux plus âgés, c'est de nous amener à lui-même. Dieu désire des personnes qui lui soient unies par son esprit dans une même vie, nous a communiqué sa nature. Nous sommes beaucoup plus près de Dieu que les saints de l'Ancien Testament, qu'un David, qu'un Salomon, qu'un Josaphat. Nous sommes devant Dieu sans conscience de péché, chose que n'avait pas un saint dans l'Ancien Testament. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous a donné de son esprit. Il nous a donné de sa nature. Nous pouvons l'appeler Père, chose qu'un saint de l'Ancien Testament ne pouvait pas faire. L'Esprit Saint, quand il agissait dans l'ancienne économie, agissait, comme David peut le dire au psaume 51, « Ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté ». Le Saint-Esprit nous unit à Christ. Et nous avons la pensée de Christ. Ces choses nous font comprendre, et il y en a bien d'autres, mais ce n'est pas le sujet, mais néanmoins, compte tenu de tout ce que nous avons étudié ce matin et cet après-midi, il ne faut ne pas perdre de vue que nous sommes unis à Christ et que nous sommes les enfants de Dieu qui lui sont très chers, très chers. Nous lui sommes si chers qu'il a donné son Fils bien-aimé pour nous. Voilà la mesure. Et il est bien évident qu'il s'occupe de nous de toutes sortes de manières, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Et on voit, quand on lit ces récits, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a d'abord la parole, comme on l'a dit, les écrits, les oracles de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus formel pour pour nous conduire à Dieu que cette parole qui vient de lui. Les paroles d'un homme peuvent interpréter, dans la mesure où il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais nous ne pouvons nous appuyer que sur ce que Dieu lui-même a dit. C'est fondamental. Il est écrit. Le Seigneur lui-même disait « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. » Alors on voit les défaillances, bien sûr, de l'homme, c'est l'expérience de l'homme, c'est l'homme dans ce monde, nous connaissons son histoire. Dieu peut dire « Vous m'avez fatigué par vos péchés et vos iniquités. » Voilà ce que Dieu peut dire de l'homme. Mais il y a de secours. Alors, il y a le ministère des bergers et d'autres ministères. Quel est le but du ministère? De l'exercice d'un ministère, de conduire à Dieu. Si un ministère n'a pas cette vocation, il n'est pas de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, peut dire le Seigneur, moi, je vous ai envoyé. Quelle mission, si nous en avons conscience. Pierre dira que celui qui parle le fasse comme oracle de Dieu. Ce n'est pas la prétention d'être inspiré, bien loin de là, mais c'est de mettre l'âme dans la présence de Dieu. Dieu nous veut devant lui. C'est fondamental. Dieu ne veut pas autre chose dans sa présence que des enfants qui aient conscience de la nature dans laquelle ils se trouvent devant lui, en parfaite conformité avec sa sainteté, ce qu'il est en lumière. Alors, il a donné son Fils pour cela, et cette œuvre nous a identifiés avec Christ. Et puis nous voyons ce roi qui s'adresse à Dieu. Ça nous fait penser à Hébreux 4, le trône qu'il y a là, du secours pour le moment opportun.
Cette prière est touchante à la fois par les arguments employés par Josaphat devant son Dieu et par l'esprit d'humilité dans laquelle elle est prononcée. Les arguments, on a relevé quelques-uns, c'est un peu comme quand Moïse parle du peuple en disant « c'est ton héritage, c'est toi qui as fait des promesses, Abraham était ton ami, c'est toi qui lui as donné ce pays, c'est ton pays, c'est ton œuvre ». Ce n'est pas la nôtre. Voilà un moyen toujours efficace pour fléchir le cœur de Dieu. Ce frère, cette sœur, c'est le frère pour lequel Christ est mort. C'est le racheté du Seigneur. Cette assemblée, c'est celle du Seigneur. Et il fait appel à l'angoisse à laquelle Dieu n'est pas indifférent. À cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Il ne cache pas la crainte qui remplit son cœur. Ce n'est pas un surhomme, Josaphat. Il ne plane pas au-dessus des circonstances. Il est profondément affecté et concerné par ce qui se passe. Mais notre angoisse. Et puis, alors il reconnaît qu'il n'y a aucune force, verset 12, il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude. Aucune force, donc, il nous faut la tienne. Et puis, dans le même verset, nous ne savons ce que nous devons faire. Non seulement pas de force, mais pas de sagesse. Ni force, ni sagesse. Quand nous sommes prêts à reconnaître ces deux faits, cette carence, cette absence à la fois de force et de sagesse devant Dieu, alors Dieu peut intervenir. Et puis pour l'esprit dans lequel elle est prononcée, il est intéressant de comparer rapidement avec la même circonstance à peu près qui se produit dans l'histoire de Jephté. Au chapitre 11 du livre des Juges, nous avons le même ennemi avec des menaces. Et puis Jephté qui prend la tête du peuple, qui prend sa défense. Jephté fait aussi appel aux mêmes circonstances, c'est-à-dire que Dieu avait donné à l'époque le pays à Israël, et puis que Israël n'a pas à épargner Édom, a fait le tour du pays, n'en a pas pris possession, a eu des égards que maintenant qui ne lui sont pas qu'on n'a pas envers lui maintenant. Mais dans quel esprit est-ce que Jephté fait cette prière? Oh, verset 12, « Qui a-t-il entre moi et toi, que tu viennes combattre contre moi, pour faire la guerre à mon pays ?» On voit comme Jephté fait une affaire personnelle. Son honneur est en jeu. Et il est là, c'est Jephté qui parle. Un peu plus loin, verset 15, « Ainsi dit Jephté, Israël n'a point pris le pays. » Et puis encore, un peu plus loin, une expression semblable, verset 27. « Mais c'est toi qui me fais tort. Ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, mais c'est toi qui me fais tort en m'attaquant. » Ah, ce n'est pas dans cet esprit-là que parle Josaphat. Une autre pensée encore, le temps en passe, mais elle nous paraît très importante. C'est au verset 13. On a déjà remarqué que tout Juda est là, y compris, il est dit, les petits-enfants, les femmes et les fils. On pense à Acte 21, où Paul est là à prendre congé des anciens de l'assemblée d'Éphèse. Et puis tout le monde est là. Les familles sont ensemble. Au début du chapitre 21 des Actes. Pardon, ce n'est plus, n'est plus les anciens d'Éphèse, c'est dans la suite de son voyage. Et on voit qu'il y a une participation à la vie de l'Assemblée. Mais cela nous paraît aussi très important. C'est dans le chapitre 21 des Actes, au verset 5. Mais ayant accompli ces jours, nous partîmes et nous nous mîmes en chemin, et tous nous accompagnèrent avec femmes et enfants, jusque hors de la ville, et nous étant mis à genoux sur le rivage, nous priâmes. Et là, est-ce que nous ne pouvons pas voir un encouragement à associer vraiment les familles tout entières, les enfants compris, à la vie de l'Assemblée, à ce qui la concerne. Il y a là une attaque qui menace tout le monde, les enfants seraient emportés, ils seraient, on a rappelé l'Égypte avec le privilège qu'ils avaient, de faire partie du peuple, ils devaient partir aussi. Eh bien là, il ne s'agit pas de leur enlever leur héritage, mais ils sont là, concernés directement, et ils participent, pour ainsi dire, à la prière de l'homme de Dieu. Et puis cette parole, on a déjà souligné l'analogie avec ce que nous avons en Exode 14, verset 14, « Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, voyez la délivrance de l'Éternel. » Se tenir là, s'attendre à Dieu et compter sur lui, sachant qu'il va intervenir. C'est ce que le peuple fait, et alors Dieu va agir d'une manière remarquable.
Nous avons dans ce chapitre, nous l'avons souligné, le jeûne et la prière. Le Seigneur lui-même disait, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Voilà l'attitude qu'il nous convient d'avoir en face de l'ennemi. Une conscience nette, un cœur qui ne nous reproche rien. Nous sommes dans un état de jeûne spirituellement parlant, c'est-à-dire affranchi de tout ce qui nourrit la chair, est bien nourri de ce qui est spirituel. Assurément, voilà un peuple qui avait été enseigné dans la parole, qui avait été bien nourri, qui avait été nourri par ce pasteur qui lui-même s'était déplacé pour les enseigner. Et la prière maintenant. Le danger est là. l'angoisse, mais la confiance en celui qui peut toutes choses. Et cette prière est remarquable parce qu'elle fait comme se ressouvenir à l'Éternel de tout ce qu'il a été pour son peuple jusqu'à ce jour, depuis Abraham jusqu'à ce jour. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est dans son cœur pour son peuple, combien il l'aime. Voilà le rappel de ce qui est la substance de la prière de Josaphat. Et d'abord, la puissance de Dieu. N'est-ce pas toi, notre Dieu, éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux, n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Et en ta main est la puissance et la force, et nul ne peut te résister. Première des choses, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, véritablement. Tu es celui-là, tu l'es toujours. Tu l'es même quand ton peuple est comme il paraît aujourd'hui, un peuple qui est dans un état de ruine. Mais toi, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu tout-puissant. C'est ainsi aussi, nous l'avons souligné, que Moïse avait pu le rappeler après l'affaire du veau d'or. Il parle de son peuple à Dieu en s'adressant à celui qui est au-dessus de toutes les circonstances, qui est le même, qui est le Dieu qui a, par son bras puissant, délivré son peuple du pays d'Égypte. Et à coup sûr, il convient à la gloire et à la grandeur de Dieu de ne pas détruire ce peuple. Que diraient les ennemis? Que diraient les nations? Tu es pourtant le Dieu d'Israël. Voilà le Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Deuxièmement, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu des promesses. C'est celui qui a fait des promesses à Abraham. Et quelles promesses? C'est celui qui a promis à la semence d'Abraham de posséder ce pays dans lequel ils sont maintenant et duquel on veut les chasser. Où sont tes promesses, ô notre Dieu? Tu vois ce que veut l'ennemi? Eh bien, rappelle-toi ce que tu as promis inconditionnellement à la semence d'Abraham, ton ami. Et c'est la première fois, ce n'est pas la dernière, c'est la première fois que Abraham est appelé l'ami de Dieu. Abraham, ton ami, quelle appellation! Comme si Josaphat se souvenait de ce que Dieu avait dit en lui-même, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Des intimités émouvantes qui sont comme rappelées ici dans ce verset, « Abraham, ton ami ». Nous savons aussi que Dieu lui-même s'appellera l'ami d'Abraham dans la prophétie d'Isaïe. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, semence d'Abraham, mon ami, Ésaïe 41. » Quel beau rappel, mais c'est Josaphat qui en a parlé le premier, et c'est Jacques qui en parlera le dernier, nous le savons. Troisième mention, Abraham a été appelé l'ami de Dieu après la manifestation de cette foi dans un Dieu fidèle, dans un Dieu qu'Abraham connaissait intimement et qui a répondu au jour où Abraham a dû offrir son fils en holocauste. Abraham, ton ami. Les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est aussi ce que Moïse a rappelé au jour du veau d'or. Reviens de l'ardeur de ta colère, Exode 32. Reviens, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit « Je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé et ils l'hériteront pour toujours. » Nous voyons là ces paroles de ce fidèle Moïse qui reviennent d'une autre manière, mais selon la même substance dans la bouche de Josaphat. Cela est merveilleux et dans un temps de détresse sans pareil. Et puis, continuons, il y a les paroles de Salomon. Il y a la prière de Salomon qui est rappelée là. C'est merveilleux de voir tout ce que Josaphat parcourt dans l'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'à ses jours. Que dit-il à ce sujet, verset 9? Ils ont habité, nos pères ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, disant, s'il nous arrive du mal, épée, jugement ou peste ou famine, et que nous nous tenions devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, et que nous crions à toi à cause de notre angoisse, tu écouteras et tu sauveras. Effectivement, nous trouvons au chapitre 6e la substance de cette prière, et en particulier au verset 28, 2 Chroniques 6, 28. Si ses ennemis l'assiège dans le pays de ses portes, quelque plaie ou quelque maladie qu'il y ait, quelle que soit la prière, quelle que soit la supplication que fera un homme quelconque, ou tout son peuple Israël, ce qui est le cas ici, quand ils reconnaîtront chacun sa plaie et sa souffrance, et qu'ils étendront leurs mains vers cette maison, alors toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, et pardonne. Dieu a écouté, Dieu a pardonné. Josaphat est un homme restauré, ce peuple est restauré, il est là, suppliant, dans la prière, tous ensemble, et Dieu délivre. Dieu délivre remarquablement. Il répond à cette remarquable prière. Le quatrième argument, nous le savons, c'est l'héritage. Il en a été fait mention tout à l'heure. Il s'agit de l'héritage de Dieu pour son peuple. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage que tu nous as fait posséder. C'est ton héritage, ça n'est pas le nôtre. Tu nous l'as fait posséder. C'est ton pays, c'est le pays de la promesse. Il t'appartient, nous sommes ton peuple. Il y va de ta gloire. Ils veulent nous chasser de là, ils veulent nous chasser de là. Et les enfants sont là, ce sont les héritiers eux aussi. Ce sont ceux qui viennent après, mais qui ont leur part dans le pays, dès à présent, et qui sont comme unis dans cette prière. Hommes, femmes, enfants, tous sont là. Cela est très beau. Dieu, son bras est armé par cette prière. Le cœur de Dieu est touché. Il s'est ressouvenu de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il est pour son peuple, et il ne peut pas ne pas répondre. Et une réponse merveilleuse comme peut-être il n'y en a jamais eu. L'Éternel combattra pour vous. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Le peuple n'aura rien à faire. L'épée ne sera pas maniée. Qu'est-ce qui viendra là? Qu'est-ce qui sera manifesté? Ce sera les trompettes, ce sera les chants de louange, ce seront les harpes. C'est l'adoration. C'est un chant de victoire avant qu'elle soit remportée. Pourquoi? Parce que Josaphat savait très bien, ayant une parfaite confiance en son Dieu, que cette prière aurait sa parfaite réponse, que c'était la guerre de Dieu et que ce serait la victoire de Dieu. Tout cela est remarquable. Encore un mot sur les enfants. Assurément, il nous convient de voir les enfants groupés famille par famille, là dans les rassemblements des saints, pouvant participer à tous ces exercices des assemblées de Dieu. Déjà du temps de l'Ancien Testament, du temps du peuple d'Israël, ils devaient être là pour écouter la loi, Deutéronome 31. Tu la liras devant tout le peuple, homme, femme, enfant, et l'étranger qui est au milieu de toi. Vous lirez cette parole de la loi. Les enfants devaient écouter la parole de Dieu. Et nous savons comment ils l'ont écoutée un jour solennel, lorsque le peuple rassemblé en un entre les montagnes d'Ébal et de Garizim, Josué lut la loi devant tout le peuple et les enfants étaient là. Cela est mentionné, les enfants étaient là. Ils étaient là pour écouter la parole. Ils sont là pour, comme une réunion de prière, comme une supplication ardente, alors que l'épreuve est là. Et ils y participent par leur présence. Et cela est déjà fondamental de savoir que toutes les familles sont là. Et toutes se tiennent là devant l'Éternel. Tout Juda se tient où? Devant l'Éternel. Quelle merveilleuse présence de tout ce peuple pour supplier tous ensemble le Dieu des délivrances. Nous trouvons aussi une circonstance dans le livre d'Esdras où les enfants ont été unis à une circonstance bien douloureuse. Esdras 10, lorsqu'Esdras priait, faisait sa confession pleurant, se prosternant devant la maison de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il se rassembla vers lui d'Israël une très grande congrégation d'hommes et de femmes et d'enfants, car le peuple pleurait beaucoup. Les enfants étaient là, pleurant avec les hommes, avec les femmes, pouvant reconnaître n'en ayant peut-être pas pleinement conscience, mais pouvant être là pour témoigner par leur présence que ce peuple était dans une grande affliction et par leur propre faute, et qu'il fallait compter sur toute la puissance de Dieu pour les délivrer de toute leur misère. Il y a ainsi cette association de toutes les familles des saints, femmes, enfants, hommes, femmes et enfants. Nos enfants sont saints, ils sont sanctifiés, mis à part comme nous-mêmes, pour qu'ils puissent être des témoins de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu pour son assemblée.
Quand tu as racheté son peuple, c'était pour une chose bien particulière. C'est parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'était ça son désir. Et on le trouve dans Exode 15 déjà. Dans le lieu que tu as choisi pour ton habitation. Dieu voulait avoir une demeure et habiter au milieu de son peuple. Le parallèle, maintenant, nous savons, c'est la maison spirituelle. Et la question se pose, qu'est-ce que nous avons fait de cette maison? C'est la question de la responsabilité. Et Dieu veut nous avoir dans la jouissance de ce qu'il est dans sa maison. Alors, il a fallu attendre 500 ans partir de la sortie d'Égypte pour que, à David, lui soit indiqué le lieu où cette maison devait être construite. C'était dans l'ère d'Orna où, quand David a été l'objet d'une grâce si grande, sentant sa grande misère et voyant toute la grâce de Dieu, qu'il peut dire, c'est ici. L'autel de l'Éternel, la maison de l'Éternel, 1 Chronique 22. Et cette maison va être construite par Salomon. Et on peut dire que dans un certain sens, d'abord Josaphat a fortement contribué à ce que cette maison arrive à une ruine 120 ans après. On fait une remarque de cela ce matin. Et il avait grandement manqué pendant tout un temps de son règne. Puis voilà que pendant 5 ans, Dieu va s'occuper de lui et Dieu va le ramener où ? Dieu va le ramener là où il aurait dû être souvent, dans la maison de l'Éternel. Oh, les choses sont perdues pour le peuple quant à sa responsabilité. On l'a vu, ce roi qui s'est engagé avec le monde religieux, avec le monde professant. Pour ses fils, il ne pourra plus rien faire. Et c'est important de le dire. On a dit cela ce matin, il faut dire la vérité. Il faut la dire. Mais Dieu va s'occuper de celui qui lui appartient, de sa brebis. Et il va la ramener où ? Dans la maison de l'Éternel. Pour ce faire, il va lui faire rencontrer 6 prophètes en 5 ans. Le premier, c'est Michée. Nous en avons parlé ce matin. Michée veut dire qui est comme Dieu ? Ou à côté de tous ces prophètes de Baal, qui est comme Dieu ? Il y en a un seul. Josaphat, il faut qu'il apprenne cette leçon. Le deuxième qu'il va voir, c'est Jéhu. C'est lui. Lui seul est Jéhovah, l'Éternel, le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Le troisième, c'est quand il s'en va en guerre avec Akazia, c'est Eliezer. Oh, tu as mis toutes tes armées, tu veux de la richesse ? Où est le secours ? Nous savons qu'Eliezer veut dire, c'est la pierre, c'est jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Où en l'Éternel est le secours ? Troisième fois qu'il rencontre un prophète. Oh, Dieu continue à lui parler par des prophètes. Quand son fils tue tous ses frères, Élie lui envoie une lettre, certainement il a connaissance. C'est une chose triste que de voir qu'alors que Josaphat est roi et qu'il est donc responsable du royaume, et que Joram, à qui il a donné sa régence, la régence, et qui tue tous ses fils, à qui est-ce qu'il va donner ? Élie va envoyer une lettre ? À Josaphat ? Oh non. Mais il l'envoie à Joram. Oh, cela a dû parler au cœur de Josaphat. Et cela lui a certainement parlé. Cela veut dire quoi ? Élie, en Dieu est la force. En Dieu est la force. Et puis, il se laisse encore aller, comme on l'a dit, dans 2 Rois 3. Il se laisse encore aller dans des associations avec le monde. Et là, il y a un prophète qui est là. Un homme vient dire, oh, mais il y a là Élisée, on le fait venir. Élisée, la face de Dieu, le salut de Dieu. Dieu lui parle par ses prophètes, par leur nom. Le salut de Dieu, où est le salut de Dieu ? Il voit bien que le salut de Dieu, c'est Dieu qui va le donner. Mais pour lui, le salut de Dieu, il est où ? Le salut de Dieu, il est dans l'humiliation. Il est dans l'humiliation, il est dans le jeûne. Il est là où on est d'un esprit brisé. Et alors, quand on est là, Dieu le ramène où ? Dieu le ramène dans sa maison. Il craint l'Éternel, il prie, on a dit, et il proclame un jeûne, il se sépare de tout ce qui est le mal. Alors, Dieu vient lui parler. Il vient lui parler une fois encore, par un prophète qui s'appelle Jacaziel. Dieu a vu. Ou vu de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que Dieu regarde ? À qui l'Éternel regarde-t-il ? Ésaïe 66, je regarde à celui qui a l'esprit brisé et le cœur abattu. Voilà pour le cœur individuel, voilà pour nos âmes, le seul chemin du retour. Et Dieu permet pour cet homme, à la fin de cette vie, qui était une vie, un homme pieux, mais qui a été une vie où la plus grande partie quand même a été en relation, a été en association avec le monde, Dieu permet, dans sa grâce immense, qu'il retrouve cette communion avec son Dieu dans la maison de l'Éternel. Voilà quelque chose qui doit nous parler, qui doit parler à nos cœurs. Oh, pour lui, ce sera la fin. Il va donner son royaume pendant les 3 dernières années. Il va mourir à 60 ans, il va donner son royaume à son fils Joram. Et 5 ans après, de la maison de l'Éternel, il ne restera plus rien. Elle sera dévastée, il est dit quelques chapitres plus loin, par cette méchante femme, Athalie, et par ses fils. Et je voudrais lire à ce sujet un verset. Un verset dans Exode 34, nous connaissons tous très bien. Exode 34, verset 6. « L'Éternel passe devant lui, devant Moïse, et crie, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations. » Ça c'est pour David, si on peut dire. « Pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Voilà ce qu'il devra subir maintenant. Voilà la fin de Josaphat dans son témoignage extérieur. On a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, quand on est en relation avec ce monde, on ne peut pas être un témoin. Il n'est pas un témoin. Ce qui reste de lui, ce sont 3 générations. 4, Joram ne compte pas, mais il reste dans la génération de Christ. Mais 3 autres générations, il y a Akazia et Joas, et peut-être encore un, oui, et Ozias, qui ne sont pas cités dans la généalogie du Seigneur Jésus dans Matthieu. Triste conséquence, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors tout est-il perdu? Est-ce que les conseils de Dieu sont abandonnés? Est-ce que Dieu va être sans ressources, on l'a dit? La fin du règne d'Akab, 5 ans après, la maison de l'Éternel close et il n'y a plus de descendants. Il n'y a plus de descendants. Tous sont tués, tous les fils sont tués. Aussi Dieu est là, sauf un, Joas. Un tout petit. Oh, quel âge a-t-il quand il sera... Quand il sera roi, sauf erreur, il aura 7 ans, et il se passe 6 ans, donc il avait 1 an. Voilà dans les choses faibles. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour manifester ses conseils, sa grâce, son amour, sa fidélité. Qui est-ce qui va être l'objet de ce salut? D'abord une femme, Jéhoshabbat, c'est une sœur d'Akazia, c'est une sœur d'Akazia. C'était une fille de Joram, d'un roi impieux, Jéhoshabbat. Elle avait épousé le grand sacrificateur. Jéhoshabbat veut dire serment de Dieu. Tu as juré. Et je vais lire ce passage du psaume 89. Tu as juré. Oh, tu as juré, Dieu ne se repentira pas. Il a juré à David, tu auras... Psaume 89, verset 33... Mais je ne me retirerai pas de lui ma bonté, et je ne démentirai pas ma fidélité. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en vue, la vraie semence. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai une fois juré par ma sainteté, si jamais je mens à David. Sa semence sera toujours, et son trône comme le soleil devant moi. Il y a une semence dans la faiblesse. Qui est-ce qui va la mettre de côté? C'est encore un vase faible, c'est une femme. Oh, cela nous apprend ce que nous sommes, cela nous apprend l'humilité. Et ensuite, qui est-ce qui va rétablir tout cela? Quel a été le témoin de Dieu pour assurer la continuité? Qui c'est cela? Il y a le mari, c'est Jéhoiada. Jéhoiada, le souverain sacrificateur. Alors, il y a chose remarquable, c'est son nom. Je ne veux pas particulièrement insister sur les noms, mais Jéhoiada veut dire « connu de Dieu ». 1 Corinthiens 8 nous dit, celui qui aime Dieu, celui ici est connu de Dieu. Voilà quelqu'un que Dieu connaît, quelqu'un qui a aimé Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, qui a été fidèle. Voilà la continuité. À 130 ans, il meurt. Quand on regarde, c'est écrit dans l'Écriture, quand on regarde depuis quand il est né. Au temps de Salomon, probablement au temps de Salomon, ou alors dans les tout premiers jours, dans les tout premiers jours de Roboam. Il ne peut pas être né autrement, 130 ans. Et voilà un homme qui a été fidèle, qui a été aimé de Dieu, qui a eu ce service infiniment précieux de rétablir la semence de David sur le trône de Dieu, de rétablir la personne, si on peut dire, de rétablir celui qui en image va être dans la lignée, la personne du Seigneur Jésus même. Oh combien ces choses connues de Dieu, il n'est pas connu des hommes, il n'en est jamais question, dans les royaumes, dans l'histoire des rois, de Joïada, de Roboam, d'Abija, d'Asa, courtant homme pieux, Josaphat, il n'en est jamais question. De Joram, on comprend qu'il n'en soit pas, question. D'Acasia non plus, et puis un jour, il est là. Un homme qui a aimé l'Éternel, qui s'est attaché à lui, que Dieu a formé pour rétablir le trône de David son père, et cet échelon qui manquait, qui aurait pu manquer, mais il ne pouvait pas manquer, c'est ce que Satan voudrait, mais pour aller jusqu'à Christ.
Il y a donc ces paroles de Jacques Aziel qui rappellent à Josaphat et au peuple que ce n'est pas à eux à combattre, que Dieu prendra en main ses propres intérêts. Voyez la délivrance de l'Éternel. Il ajoute, qui est avec vous? Voilà la sécurité. Et la réponse de Josaphat et de ceux qui sont avec lui, tous les habitants de Jérusalem, tout Juda, ils tombent sur leur face pour adorer l'Éternel. Dieu est là, Dieu a fait une promesse de délivrance. La réponse du cœur, ce n'est pas de mobiliser ses forces, ce n'est pas de prendre des dispositions, c'est se prosterner pour adorer. C'est de toute beauté. Et la louange, alors, les Lévites, les fils de Kehath, se lèvent. Tous se sont prosternés. Maintenant, ceux qui sont qualifiés pour la louange, les fils de Coré, les fils de Kehath, se lèvent pour louer l'Éternel à grande et haute voix. C'est un cœur qui s'élève vers Dieu. Et on se lève de bonne heure. Il y a là une disposition, un empressement qui est aussi beau. Ils étaient dans l'angoisse. Josaphat l'a reconnu. Quand on est dans l'angoisse, on craint de s'avancer, mais non. Dieu a fait des promesses. Et maintenant, ce n'est plus Jacques Aziel qui va parler, mais c'est Josaphat lui-même et qui s'adresse à Juda et aux habitants de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il leur prescrit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Quel va être le grand moteur pour la délivrance? Croyez. C'est la foi. C'est la foi, c'est toujours la foi. Dieu a fait des promesses, mais maintenant, la foi s'en empare de ces promesses. La foi n'existe pas sans promesses. Ce n'est pas une espèce de d'autosuggestion. Mais Dieu ayant fait des promesses, la responsabilité de ceux à qui elles sont faites, c'est de les croire. Alors croyez à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et croyez ses prophètes. Ces prophètes qui ont parlé, en particulier Jacques Aziel, qui a pris la parole. Et vous prospérerez. Il n'est pas dit de quelle manière, Dieu ne s'explique pas sur la façon dont il va délivrer le peuple. Il leur dit simplement, vous prospérerez. Et voilà la réponse de Josaphat, non seulement ces paroles qu'il prononce, mais aussi des dispositions qu'il prend. Est-ce qu'il va, encore une fois, établir des chefs militaires et faire quelque chose? Non. Ce qu'il établit, ce sont des chantres qui entonnent le cantique d'Israël. Célébrez l'Éternel, car sa bonté demeurera toujours. Ce cantique qu'on entend si souvent dans les psaumes, et c'est maintenant que Dieu va agir. Le chant de triomphe commence, Dieu agit. C'est comme le signal qui donne à Dieu le signe de son intervention. Au chapitre 15 de l'Exode, nous voyons le cantique qui suit la délivrance. La délivrance est au chapitre 14. Le cantique est au chapitre 15. Il y aura bien aussi un cantique après,
nous le voyons. Mais il y a un chant de louange avant, un chant de triomphe même, il est dit. Et la louange commence, et alors Dieu met des embûches. Et comme souvent dans l'Écriture, la délivrance vient d'une guerre civile, d'une querelle entre les assaillants eux-mêmes. On voit ça dans l'histoire de Gédéon. Le camp de Madian, n'est-ce pas, il dit chacun tourna son épée contre son compagnon. Il semble que la bataille d'Armageddon, il y aura quelque chose de semblable. Mais d'après ce qu'on peut comprendre de ce que l'Écriture nous en dit. Alors ici, ce sont ces trois coalisés qui constituent cette armée et qui vont s'entretuer, s'entredéchirer. Et Josaphat, les habitants de Jérusalem et tout Juda n'ont plus qu'à recueillir le butin, les fruits de la victoire. Il en est toujours ainsi quand la foi a mis s'est reposé sur un Dieu puissant, prêt à intervenir en faveur des siens. Il a employé des arguments, les arguments les plus touchants, les plus puissants. Et le cœur de Dieu a été touché et le bras de Dieu est intervenu pour son peuple.
On peut aussi souligner l'amour de Dieu qui veut toujours recommencer avec nous, même quand nous avons failli. Voilà. Josaphat a fait une alliance qui a déshonoré Dieu avec Achab, mais c'est comme si Dieu lui disait, on va recommencer encore une fois. Ça nous montre cet amour de Dieu toujours en activité envers ses enfants, qui veut toujours nous réapprendre les leçons que nous avons pu oublier et nous faire recommencer. Et nous voyons que là, Josaphat accepte cette épreuve, mais qui se termine par la victoire de l'Éternel. Non pas la victoire de Josaphat, mais par la victoire de l'Éternel. Et combien nous sommes touchés en pensant la patience de Dieu à notre égard, à l'égard des serviteurs de Dieu, à l'égard de tout enfant de Dieu, qui veut toujours recommencer avec nous, malgré nos défaillances, nos manquements, nos faiblesses. Eh bien, l'amour de Dieu est là. Et combien nous pouvons le remercier de ce qu'il intervient en notre faveur pour nous faire apprendre nos leçons. Le Seigneur est là, il dit, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais voilà que quand un enfant de Dieu a le sentiment d'avoir manqué à ce que Dieu lui demandait, eh bien, la parole de Dieu vient à lui, eh bien, nous allons recommencer. C'est une épreuve, mais une épreuve qui est pour le bien du peuple, pour le bien du serviteur de Dieu, et pour la gloire de celui qui est, à notre égard, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, de miséricorde et de fidélité.
Il y a néanmoins, pour l'exercice de cette miséricorde, une condition que le croyant doit remplir. Et nous la voyons parfaitement réalisée par Josaphat. On a déjà insisté sur ces passages qui nous prouvent le changement qui s'est opéré chez cet homme. Il craint l'Éternel. Il tourne sa face vers l'Éternel. Ce sont deux choses qui lui sont personnelles. Et en cela, il marque cette humiliation qu'il veut communiquer ensuite à son peuple, à l'égard duquel il leur donne un jeûne. Tous ensemble s'humilient. Et ce ne peut être qu'après la reconnaissance de ses défaillances, de ses manquements, de ses péchés et de cette humiliation que de telles choses doivent nous amener à réaliser, que la grâce de Dieu alors peut s'exercer. David pouvait dire dans ce psaume 51, « Tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. » Et effectivement, l'Éternel répond à Josaphat. Il fait grâce aux humbles
s'il résiste aux orgueilleux. Nous avons vu ce matin un moment où Josaphat se laisse aller à ses succès. Nous le voyons là maintenant, prendre la position, l'attitude qui convient pour recevoir cette miséricorde par laquelle il va être restauré et devenir encore le moyen d'être en bien à son peuple auprès duquel il sera comme un berger. La miséricorde du Seigneur, oh, elle est infinie. Et combien de fois la voyons-nous se manifester? Lorsque Pierre voulait aller plus que les autres auprès de son Seigneur, alors que d'autres pourraient l'abandonner, lui irait et suivrait son maître jusqu'à la mort. Et nous savons ce qui est advenu pour Pierre, et nous voyons la grâce du Seigneur aussi se manifester à son égard. Avant sa chute, le Seigneur peut dire à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. » Voilà. Ce Pierre l'a parfaitement réalisé, nous le savons par la suite. Dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, nous voyons sa restauration. De même, pour Josaphat, nous voyons cet homme, ce roi, restauré et rendu à même de continuer sa mission auprès de son peuple.
Jacques nous parle de l'efficace de la prière, lorsqu'il nous dit « la fervente supplication du juste peut beaucoup ». À propos d'Élie, un homme tout à fait remarquable quant à sa vie de prière. Et puis, il ajoute dans ce même chapitre 5, « Si quelqu'un parmi vous est maltraité, qu'il prie. » C'est le cas de la première partie de ce chapitre 20. Les ennemis du peuple de Dieu voulaient maltraiter Josaphat et son peuple. Eh bien, ils utilisent cette ressource invincible qu'est la prière. Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des cantiques? Quand ils sont apaisés, tout à la fois par la prière fervente du juste et par les paroles de Jacques Haziel, nous voyons qu'ils sont disposés à la louange. C'est un effet déjà tout à fait remarquable de la prière fervente de la foi. Elle nous conduit à la louange. Et qu'est-ce que la louange? C'est le trop-plein du cœur qui est rempli de ce que Dieu est par la puissance du Saint-Esprit, qui se plaît à ce que nous fassions nos délices de Jésus. Et cette louange, elle s'élève vers Dieu, comme nous l'avons remarqué, avant même que la victoire ait eu lieu. Et nous la retrouvons, cette louange, par la suite, bien sûr, après que les ennemis aient été défaits, ils se retrouvent dans la vallée de Béraka, la vallée de bénédiction, et vont jouir ensemble des effets de cette prière fervente dans laquelle ils ont répandu leur cœur devant Dieu, dans cette vallée de Béraka, qui est le prolongement normal de cette vie de foi où l'Éternel va les réjouir. Et un cœur heureux est un festin continuel. Dieu désire réjouir nos cœurs, mais il y a un préalable, c'est que nous nous tenions devant lui, que nous réalisions ces conditions morales qui viennent d'être évoquées. Donc la joie, il y a des luttes, des harpes, des trompettes, c'est l'Éternel qui remplit leur cœur de joie et de paix. Ils étaient sans inquiétude avant même de livrer le combat. Selon ce que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et les actions de grâce ici vont plus loin encore, jusqu'à la louange où l'on adore Dieu pour ce qu'il est à l'égard de son peuple, à grande et haute voix. Et alors, un autre effet aussi de cette victoire, car ils sont plus que vainqueurs, il y a du butin que chacun va pouvoir partager. Et nous voyons le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos tout alentour. Voilà ce qui est obtenu au terme de cette victoire. C'est un butin très précieux. Quand une assemblée vit en paix dans la crainte de Dieu, c'est que Dieu est là. C'est le signe certain que Dieu est là. S'il y a des dissensions, s'il y a des difficultés, des combats, eh bien, c'est que la chair s'est immiscée plus ou moins à des degrés divers. Mais quand la paix est la part de tous les saints dans la présence de Dieu, c'est un effet béni d'une victoire remportée par Dieu. Car nous voyons bien que cette bataille était celle de Dieu. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Dieu peut agir sans nous, sans aucun doute. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons à cœur sa gloire et ses intérêts pour le bien-être moral et spirituel de son peuple dans son ensemble. La foi voit toujours le peuple de Dieu dans son ensemble. Nous avons parlé à juste raison des femmes et des petits-enfants. Il est même dit les petits-enfants. Combien cela est touchant, ce que la grâce de Dieu permet à nos familles. Dieu veut qu'elles soient ensemble dans sa présence. Et n'excluons pas nos enfants des réunions de prière. Ils accéderont plus tard à ce thème plus élevé qu'est la louange, l'adoration de Dieu connu comme Père en esprit et en vérité. C'est certainement la phase la plus élevée de notre vie chrétienne sur la terre. Lorsque nous sommes ensemble dans la présence de Dieu et que nous adorons avec le secours du Saint-Esprit, la louange jaillissant spontanément de chacun de ces cœurs qui se sont jugés au préalable, qui se sont tenus dans la présence de Dieu, et Dieu remplissant tous les cœurs, nous avons véritablement un coin du ciel sur la terre.
Je voudrais relever ce que sont ces vallées ou cette vallée dont il est question là. Il semble que la vallée de l'ombre de la mort a été transformée en vallée de bénédiction. Au verset 16e, l'ennemi se trouve au bout de la vallée. C'est la mort certaine. C'est un ennemi puissant, un ennemi vengeur. Vous les trouverez au bout de la vallée, dans le désert. Et il fallait y aller. Il fallait s'engager là. Mais il fallait s'engager pour combattre avec des armes que Dieu leur donnait, ses harpes, ses luttes pour la louange, ses chants de triomphe avant que la victoire même soit obtenue. La vallée de l'ombre de la mort est éclairée par la lumière de Dieu. Il y a la certitude de la victoire. Le chant de triomphe va éclater avant que la victoire soit obtenue. Il est bien question de chant de triomphe. Nous voyons cela au verset 12e, au moment où il commençait le chant de triomphe et la louange. C'est à ce moment-là que l'ennemi est vaincu. Ainsi donc, dans cette vallée de l'ombre de la mort, il y a là une table dressée devant les ennemis. Il y a ce que Dieu a préparé pour son peuple qui a prié et qui s'est placé sous sa protection. La table est là. On peut chanter, on peut louer. L'ennemi est pourtant là. Il n'est pas encore vaincu, mais la victoire est certaine. Voilà la foi. Est-ce que nous prions dans cet esprit-là ? Est-ce que nous pouvons chanter avant la délivrance ? Deux frères qui se rencontraient, qui étaient très oppressés pour des questions différentes l'un et l'autre, mais qui étaient accablés devant l'Éternel et angoissés, se rencontrent. Eh bien, avant de parler de ces choses, l'un des deux frères a dit, « Eh bien, chantons un cantique, chantons un cantique. » Avec l'âme angoissée, ils ont chanté le cantique et ils se sont trouvés tout réjouis devant leur Dieu. Ils ont pu exposer leur cause et puis ils ont obtenu la délivrance. C'est très beau cela. C'est très beau d'avoir l'âme délivrée par des cantiques alors que on peut être angoissé, mais voilà, Dieu apaise. Dieu est là pour dire, vous avez tous ces éléments contre vous, mais je suis pour vous. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Voilà ce que nous devons nous dire constamment. Tribulation, péril, épée, peu importe. Dieu est pour nous, dit l'Épître aux Romains. Qui sera contre nous ? Voilà. La certitude du croyant, voilà comment la foi peut s'affermir en présence des ennemis, en présence de toutes les circonstances contraires. Et alors, nous voyons que la délivrance est obtenue et l'on revient, semble-t-il, par cette même vallée, probablement. L'ennemi n'est plus là. On revient, on se rassemble dans cette vallée au quatrième jour, verset 26, dans la vallée de Béraka. Car là, ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là du nom de vallée de Béraka jusqu'à ce jour.
Sachons bien que nous connaîtrons nous aussi nos vallées des pleurs, nos vallées de Baca, c'est un autre point de vue peut-être, mais il y a toujours de la bénédiction aussi. C'est là aussi que nous pouvons en retirer une après avoir connu ces souffrances, ces angoisses, ces pleurs, eh bien la pluie de bénédiction peut couvrir ceux qui ont traversé cette vallée-là, à condition de traverser la vallée avec la confiance dans celui qui délivre. Puissions-nous connaître ainsi ces traversées, quelquefois sombres, mais avec ces retours bénis, et des retours avec des acquisitions particulières qu'il n'y avait pas au départ, une richesse, des biens à ne pas pouvoir les porter, est-il écrit. Et pour nous, des richesses spirituelles obtenues à travers ces moments d'épreuve, ces moments d'angoisse, mais ces moments aussi où nous avons senti toute la délivrance de notre Dieu, toute la puissance de Dieu en délivrance, tout l'amour de son cœur, au moment où nous étions angoissés, au moment où nous avons supplié. On revient avec des chants de triomphe aussi, de délivrance. Et on revient avec les mains pleines de ce qu'il veut nous donner à travers ces épreuves. C'est cela qu'a connu son peuple ce jour-là. Il valait la peine d'avoir connu cette épreuve. Il valait la peine pour ce roi d'avoir connu cette discipline, pour en sortir triomphant, pouvant relever la tête dans la louange à son Dieu avec tout son peuple. Il y a des chants de louange déjà avant la délivrance. Il y a ensuite des chants de louange probablement et des accents de bénédiction dans cette vallée de Béraka. Et puis, notons bien, on va plus loin encore. On va plus loin. On va jusqu'à la maison de Dieu. On va rendre culte là, là dans, où Dieu a fait habiter son nom pour le louer avec des arbres, des luttes, des trompettes, avec tout ce qui convient. Au verset 28, ils vinrent à Jérusalem, à la maison de l'Éternel, avec des luttes et des harpes et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes des pays. Ainsi donc, il y a un chant de triomphe avant même que l'ennemi soit défait. Il y a des actions de grâce, des actions de reconnaissance, des actions de bénédiction lorsque la victoire est obtenue. Et puis, il y a un culte d'autant plus élevé qu'on a la conscience d'avoir connu Dieu de plus près. Un Dieu qui est pour nous, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous délivre, un Dieu qui veut être adoré par ceux qui connaissent tout l'amour de son cœur. Voilà ce qu'il veut, notre Dieu. Voilà ce que nous avons à apprendre aussi comme ces fidèles de ce temps-là. Assurément, cela porte nos regards plus loin encore. Nous savons qu'il a été écrit qu'il y a là comme une anticipation de l'entrée dans le règne millénaire, dans le règne du millénium. Il y a là un peuple, un résidu qui connaîtra cette souffrance, cette angoisse à travers une tribulation comme il n'y en a jamais eu jusqu'à ce jour-là. Et puis, voilà celui qui descend pour les délivrer. Ils regarderont vers moi. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. Ils s'humilieront. Ils reconnaîtront tout leur passé sous une discipline terrible, plus terrible que jamais. Mais alors, il y a les réponses bénies. Il y a la délivrance de celui qui descend, qui pose ses pieds sur la montagne des Oliviers, qui défait tous ses ennemis coalisés et qui fait rentrer son peuple dans Jérusalem et dans son pays avec un chant de triomphe, de délivrance. Ce sera un moment merveilleux en vérité. Eh bien, ce moment, nous l'anticipons nous aussi, à notre manière, suivant ce qui nous a été révélé. Nous savons que la délivrance, nous avons été les objets, nous connaissons celui qui a triomphé de la mort, qui au tombeau de Lazare a pu dire « Lazare, sors dehors ». Et qu'a-t-il pu dire? Il a dit à son Dieu dans cette prière auquel il s'est adressé à l'adresse de son Dieu pour sa gloire. « Je sais que tu m'entends toujours, je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'as entendu. » Avant même que Lazare soit délivré de son tombeau, « Je sais que tu m'entends toujours, je sais que tu m'as entendu. » Il savait que la réponse suivrait sa prière. C'était pour la gloire de Dieu tout cela. Mais quelle gloire plus grande encore dans sa propre délivrance, dans sa propre résurrection, et nous à sa suite, et nous délivrer de la mort, et nous pouvons ainsi rendre grâce à notre Dieu pour l'instant sur la terre, mais bientôt dans la maison de Dieu, là-haut, lorsque nous serons arrivés, et où la louange sera incessante.